Il est 7h.
Si on veut être amené à faire un grand résultat, ça passera avant tout par une grande performance collective face à une grande nation du football.
Et ce collectif, justement, il en est où? Les individualités seront-elles capables de se mettre au service du groupe? Passage en revue des troupes à quelques heures du premier match des Bleus dans l'Euro de football contre l'Allemagne ce soir. On va en parler à 7h20 aussi, l'entrée en lice des Bleus dans l'édito sport de Virginie Fulpin.
Et hop, dans le grand bain, sans se mouiller la nuque, hein, France-Allemagne pour les débuts des Bleus à l'Euro. On dirait un vieux couple qui s'offre un nouveau frisson.
3,5 millions de candidats supplémentaires à la vaccination. Les 12-17 ans peuvent recevoir dès aujourd'hui leur première injection. On en parle dans ce journal. Et puis la question de l'adaptation des cultures posée par l'étude de chercheurs français. Le réchauffement climatique augmente de 60% le risque d'épisodes de gel en période de bourgeonnement. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
L'incident qui s'est produit dans la centrale nucléaire de Taishan en Chine est un coup dur. Cette EPR, c'est la vitrine de la filière nucléaire française.
Le regard international, Vincent Hervouet. Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après Israël, après les États-Unis ou dernièrement l'Italie, la France se lance aujourd'hui dans la vaccination des adolescents. Injection anti-Covid possible dès 12 ans, mais sous conditions. Et on va les détailler avec vous, Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Pour encadrer cet accès des plus jeunes à la vaccination, un triple consentement sera nécessaire.
Oui, pour cette vaccination, il faudra à la fois l'accord oral de l'adolescent, la présence de l'un des parents et l'accord écrit des deux. Un formulaire de consentement parental est disponible sur le site internet du ministère de la Santé. Les injections se feront en centre de vaccination uniquement avec le vaccin Pfizer, puisque c'est le seul autorisé pour cette tranche d'âge pour l'instant. Alors, il est vrai que les plus jeunes sont moins souvent touchés par des formes graves du Covid, mais 4000 d'entre eux ont quand même été hospitalisés en France, donc il y a un bénéfice individuel. Et puis, au niveau collectif, au-delà du fait qu'on fermera moins de classes avec des ados immunisés, vacciner les plus jeunes est aussi un impératif arithmétique car pour parvenir à l'immunité de groupe, il faudrait vacciner 90% des Français de plus de 12 ans et couvrir toutes les tranches d'âge.
Anne, certains parents s'interrogent tout de même sur de possibles effets secondaires. Elle est vraiment sans risque la vaccination des 12 ans ?
Alors que les parents se rassurent, les experts de la Haute Autorité de Santé ont épluché des centaines de pages d'études scientifiques avant de donner leur feu vert. Aucun problème de sécurité n'a émergé lors des essais cliniques. Et par ailleurs, 20% des adolescents américains ont déjà été vaccinés sans signal d'effet secondaire inquiétant.
Explication signée Anne Le Gall pour Europe 1. La vaccination qui, avec deux doses de Pfizer ou d'AstraZeneca, protège à 90% contre les hospitalisations après une infection au variant indien du virus. Résultat d'une étude britannique dévoilée hier.
L'autre grand titre de l'actualité de ce mardi, c'est l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro de foot face à l'Allemagne. C'est ce soir à partir de 21h.
Et ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 avec vous, notamment Jean-François Pérez au commentaire. Bonjour.
Good morning, bonjour à tous.
Chef du service des sports, envoyé spécial d'Europe 1 donc à Munich. Les Français favoris de la compétition après leur titre mondial en 2018, même si la donne a quand même pas mal changé depuis. Hein.
Oui, alors sportivement, tout va bien. La préparation s'est bien passée, mais c'est vrai, pas mal de choses ont changé depuis 2018. Et la première, c'est cette voix qu'on n'avait plus entendue depuis près de 6 ans.
Vous voulez que je le dise ici ? Merci, merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit. Je suis là et je suis super content.
Voilà, 34 ans et malgré l'affaire de la sextape et un procès à l'automne, Karim Benzema est de retour en bleu et ça change beaucoup de choses. Benzema est une star mondiale, un titulaire incontestable et sa présence modifie la façon de jouer de l'équipe. Alors la principale victime, si on peut dire, de ce changement, eh bien c'est le buteur Olivier Giroud que Benzema avait comparé à un karting alors que lui s'imagine en Formule 1.
Alors Giroud, auteur d'un doublé face à la Bulgarie en match préparatoire et qui a semé la zizanie dans l'attaque française.
Oui, il a déploré l'individualisme de Kylian Mbappé après le match contre la Bulgarie. Mbappé, lui, loue les qualités techniques et humaines de Karim Benzema. Bref, il y a un peu de friture sur la ligne. Alors, en 2018, la France avait été championne du monde grâce notamment à un état d'esprit irréprochable. Eh bien, cette fois, Deschamps et son staff devront gérer les égos comme le lait sur le feu.
Et ils devront gérer aussi le dossier du tireur de pénalty.
Oui, alors ça, c'est un dossier hautement symbolique pour des joueurs obsédés par les statistiques. Depuis la Coupe du Monde, le taux de réussite est de 40%, c'est très mauvais. Alors Antoine Griezmann assure qu'il reste le tireur numéro 1, mais Kylian Mbappé, encore lui, dans une posture de taulier qu'on ne lui connaissait pas, eh bien, il feint de n'avoir rien entendu.
J'ai entendu Griezmann qui avait parlé de ça, mais le coach, il n'a rien dit. Donc peut-être que j'ai loupé, j'étais pas là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'hiérarchie. Peut-être que le coach en fera une. Mais pour l'instant, il n'y en a pas.
Voilà, si jamais les Bleus obtiennent un pénalty ce soir contre les Allemands, eh bien, regardez bien qui va le tirer parce que cela vous en dira beaucoup sur le leadership de cette équipe.
On surveillera ça, Jean-François. En fait, la solution, finalement, paradoxalement, elle pourrait ne pas venir de l'attaque ?
Non, elle viendra peut-être d'un milieu de terrain qui a désamorcé lui-même l'embrouillamini entre Mbappé et Giroud en se présentant de lui-même en conférence de presse deux jours après. Son influence est réelle dans le groupe, sa personnalité est appréciée de tous. Il s'appelle Paul Pogba.
Place au jeu, donc pour les Bleus, Allemagne-France à suivre ce soir en direct et en intégralité sur Europe 1, émission spéciale bien sûr, dès 20h.
Et pour ceux qui suivront le match, pour le suivre tranquillement, sereinement, le ministère de l'Intérieur a appelé hier les préfets à la mansuétude dans les contrôles liés au couvre-feu, hein, toujours fixé à 23h.
7h06 sur Europe 1. Après 4 ans de tension, les retrouvailles entre les États-Unis et l'Europe. Mais l'heure n'est pas encore à la lune de miel.
Ah oui, America First reste le leitmotiv de la politique américaine. La question donc maintenant, c'est de savoir comment il sera concilié avec le retour du multilatéralisme promis par Joe Biden qui poursuit sa tournée sur le vieux continent.
Le président américain qui va rencontrer aujourd'hui les présidents des institutions européennes. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1 où l'on espère que cette rencontre permettra de solder les conflits commerciaux de l'ère Trump.
Oui, surtout la fin des taxes sur les produits européens. Certaines frappent l'acier et l'aluminium, d'autres découlent de la longue dispute sur les subventions de Boeing et d'Airbus. Celles-là frappent les vins français, par exemple. Elles ont été suspendues jusqu'à début juillet par la nouvelle administration, mais la fin de cette trêve approche. Est-ce que ces litiges seront résolus aujourd'hui ? Ce n'est pas parce que Biden est arrivé que tout va progresser. C'était très dur avec Obama, rappelle un haut fonctionnaire européen. En tout cas, Joe Biden n'a pas oublié l'Union européenne pour sa première visite sur le continent. C'est déjà beaucoup. Son prédécesseur avait snobé les institutions. Lui vient resserrer les liens. C'est le retour de l'Amérique classique, note un observateur, mais elle est dure en affaires aussi. Les négociateurs américains ont discuté chaque point de la longue déclaration qui sera adoptée tout à l'heure. Elle prévoit la création de plusieurs groupes de travail communs, technologie, climat, santé. Ils doivent permettre de traduire en actes les bonnes intentions exprimées par Washington.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
La politique avec un non-candidat pourtant bien présent sur le terrain. François Baroin multiplie les déplacements. Toulouse aujourd'hui après la Normandie hier.
Certes, les régionales approchent, premier tour dimanche, mais ne serait-il pas aussi en train de tester sa popularité, de prendre la température sur le terrain ? Hélène Terzian l'a suivi hier pour Europe 1.
Non, alors ça, le coup, la température, quand on est maire, si vous voulez, on l'a matin, midi et soir. Et...
N'allez pas lui dire qu'il fait comme Emmanuel Macron. Il n'empêche, François Baroin fait son tour des régions Occitanie, Grand Est, Normandie et s'invite dans le débat national.
Je ne peux pas imaginer qu'on se croise les bras en regardant... Le Pen-Macron qui est mortifère pour la démocratie, mortifère pour le débat politique. Il faut sortir du en même temps, parce que en même temps c'est le brouillard. C'est tout et son contraire, c'est rien et pas grand-chose, et donc c'est du flou supplémentaire et les gens ont besoin de clarté.
De là à s'imaginer en recours, à l'automne dernier, il a expliqué au ténor du parti ne pas vouloir être candidat. Depuis, il ne dit plus rien et est à 10% dans les sondages, mais ses deux militants aimeraient bien qu'il se lance.
François Baroin, c'est un homme que je trouve charismatique et qui peut, à un moment ou un autre, assembler la droite.
Je verrais bien candidat à la présidence de la République.
Son premier supporter se trouve à la tête du parti, Christian Jacob, et François Baroin le sait.
On ne peut pas empêcher les gens de penser à vous. Difficile. Je ne peux pas les engueuler en plus, quoi, voyez.
Bref, il pourrait bien se retrouver dans le grand sondage de LR sur les présidentiables, même sans avoir fait acte de candidature.
Il est attendu cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy à la barre dans le procès Big Malion, le chef de l'État poursuivi pour financement illégal de campagne électorale dans ce dossier.
2 milliards d'euros de dégâts rien que pour le secteur du vin. Et l'épisode de gel du mois dernier risque de ne pas être un événement isolé.
Oui, c'est ce que disent les chercheurs de l'Institut Pierre-Simon Laplace qui pointent le rôle du réchauffement climatique dans cet événement, Virginie Salmen.
C'est un paradoxe, le réchauffement climatique peut augmenter les dommages causés par le gel. Concrètement, le mercure grimpe, même en plein hiver, par vagues, les plantes bourgeonnent et c'est ça le fléau, bien plus que le gel lui-même qui va se raréfier, explique Robert Vautard, auteur principal du rapport.
On n'attend pas des vagues de froid plus intenses, ni plus longues, ni avec des caractéristiques différentes. Le problème vient plutôt des températures chaudes qu'on voit arriver maintenant dans le mois de février, cette année avec un mois de mars extrêmement chaud. C'est de là que vient le problème.
Le résultat de
de ces modélisations, c'est que la crise climatique augmente la probabilité d'un épisode comme celui d'avril dernier de 60% en France. Pour s'en prémunir, le vigneron Christophe Daviau, installé en Anjou, envisage d'investir dans des éoliennes pour protéger ses vignes.
L'éolienne, c'est que ça empêche l'air froid de stagner. En fait, la gelée blanche, c'est la température qui baisse, il n'y a pas de vent. Donc l'air froid reste en bas et l'air chaud est un peu plus haut. Si vous brassez l'air mélangé empêchant l'air froid de stagner en bas, et ben vous faites un mouvement et puis vous gagnez comme ça 1, 2 degrés.
Pas sûr que ça suffise, préviennent les scientifiques, quand les températures descendent vraiment.
Voilà, et d'autres planchent sur des vignobles, notamment des vignes ou des arbres à floraison tardive pour éviter justement ces épisodes de gel.
Et sinon, il faut brasser l'air. Vous avez entendu, c'est la première fois que je l'entends positivement. Voilà, brasser de l'air. Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h11 et c'est le grand jour pour les Bleus, vous l'avez entendu. Et pour vous, hein, leurs supporters, évidemment, France-Allemagne, ça démarre fort ce soir, 7 euros, c'est à suivre, à vivre sur Europe 1, bien sûr. Et le meilleur choix possible pour en parler ce matin, il est né en Allemagne, il a fait une grande partie de sa carrière en France, d'abord comme joueur, puis comme entraîneur, le franco-allemand Gernot Rohr, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet.
Le sommet de l'OTAN hier était celui des retrouvailles avec l'Amérique de Joe Biden, bien sûr, mais surtout. Tout avec Recep Tayyip Erdogan, tout sucre et tout miel.
Bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Faut-il arrêter le réacteur EPR de Taishan en Chine? Toute la filière nucléaire française se pose la question.
Et elle répond officieusement oui, car c'est clair... Si cet incident s'était produit en France, selon nos propres normes de sécurité, ça aurait provoqué l'arrêt du réacteur de manière préventive. Mais en Chine, les normes sont moins exigeantes et permettent donc la poursuite de l'exploitation. À ce stade, en effet, la fuite de gaz rare dans le système primaire de refroidissement reste parfaitement confinée et ne peut pas conduire à des rejets dans l'environnement.
Mais toute la filière française scrute cet incident à la loupe et avec une certaine inquiétude.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les éléments clés dans le nucléaire, on le sait, c'est d'abord la confiance dans les autorités de sûreté et la transparence de l'opérateur. Or, c'est la Chine et nous ne savons pas si nous avons toutes les informations sur ce qui se passe vraiment. EDF est actionnaire à 30% de la société qui exploite Taishan. Elle a été informée dès octobre dernier de présomption de défaut sur les crayons de combustible de la centrale. C'est très bien, mais il est possible que l'on ne sache pas tout. Et puis l'autre raison d'inquiétude, c'est que l'EPR de Taishan est le premier à avoir été mis en service dans le monde.
Oui, c'est un peu notre vitrine.
Exactement. Or, cette technologie EPR en est encore assez début. Le premier réacteur de Taishan a été raccordé au réseau en 2018, un deuxième l'a été depuis. C'est donc récent, or nous n'avons pas d'autres retours d'expérience. L'EPR d'Olkiluoto en Finlande n'est toujours pas en service, pas plus que celui de Fehmarnville. Et nous avons vendu cette technologie aux Britanniques. On est en train de construire des EPR à Hinkley Point. Puis d'autres contrats vont venir. Bref, l'enjeu pour toute notre filière, pour EDF, pour sa filiale Framatome, pour Orano, l'ex-Areva, pour toute cette industrie donc, l'enjeu est capital. Voilà pourquoi il est essentiel que les Chinois gèrent cet incident de manière exemplaire, en totale transparence. On aimerait être pleinement rassuré. Malheureusement, ce matin, personne ne l'est tout à fait.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Et nous sommes en Chine avec notre correspondant à Pékin dans le journal de 7h30 tout à l'heure pour en reparler. Merci Nicolas, 7h15. Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous les pangolins.
Hier, le sommet de l'OTAN... Celui des retrouvailles, vous savez qu'il y a beaucoup de pangolins qui écoutent Europe 1 évidemment. Le sommet de l'OTAN, plus sérieusement, c'est celui des retrouvailles. Et vous l'avez dit, avec l'Amérique de Joe Biden, bien sûr, mais aussi avec Recep Tayyip Erdogan.
Alors heureusement qu'il y a Erdogan. Sans lui, les sommets de l'OTAN seraient ennuyeux comme des réunions de copropriétaires en uniforme. Il y a quelques années, à Évian, le Turc s'indignait qu'un Danois soit nommé secrétaire général de l'Alliance alors que le Danemark venait de publier les caricatures de Mahomet. Les autres dirigeants étaient éberlués. Il a fallu des palabres, de la patience, des cadeaux. Beaucoup de cadeaux pour qu'il lève son veto. Et c'est bien le seul dirigeant de l'Alliance qui soit rentré chez lui en pleine nuit, attendu par une foule de manifestants qui l'acclamaient. Erdogan connaît tous les rôles, mais il excelle à vituperer, à défier, à insulter et à faire chanter l'Occident. Avec une mauvaise foi grande comme la coupole de Sainte-Sophie, il a joué contre ses alliés en Syrie, en Libye, à Chypre, au large des îles grecques, comme au Karabakh. Hier, à Bruxelles, il a encore pris le monde de court en jouant à contre-emploi.
C'est-à-dire ?
Mais comme il est en difficulté à l'intérieur, il a besoin d'air, moi aussi. Alors au lieu de renverser la table, le sultan était tout sucre et tout miel avec Emmanuel Macron qu'il traitait de malade mental. Le dialogue a été nourri et substantiel, ce sont les mots de l'Élysée. Il l'accusait aussi de mener une campagne de haine contre l'islam. Eh bien, une clarification a été faite sur l'islam, laquelle, mystère et boule de gomme, mais il a suffi de trois quarts d'heure pour tomber d'accord et décider de travailler ensemble, alors qu'il y a un an, les deux marines se menaçaient en pointant leurs missiles. Avec Angela Merkel, qu'il traitait de nazi hier, les discussions ont été riches. Avec Joe Biden, le dialogue a été productif et sincère. Quand les diplomates parlent de sincérité, c'est qu'en général, ils en viennent aux mains. Mais depuis trois mois, les États-Unis ont condamné les déclarations antisémites de la Turquie, reconnu le génocide arménien et renforcé leur soutien aux Kurdes de Syrie.
Oui, le président américain Joe Biden qui fait payer à Erdogan le soutien que lui apportait Donald Trump.
Alors Erdogan, c'est toujours jusqu'où ne pas aller trop loin. Il dit « ne m'obligez pas à m'allier avec la Chine ». Il donne des gages. Il propose de sécuriser l'aéroport de Kaboul après le retrait américain. Ainsi, diplomates, humanitaires et futurs réfugiés devront compter sur sa bonne volonté. Il sera au milieu des talibans, le seul interlocuteur militaire à peu près fiable. Bref, il disposera d'un nouveau moyen de pression. Quand Erdogan ne se rend pas haïssable, il se rend indispensable et on ne sait pas ce qui est le pire.
Merci Vincent Hervouet. Le regard international tous les matins sur Europe 1, 7h17. À suivre l'édito sport de Virginie Fulpin et juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern.
Oui, cher Mathieu, ça tombe à l'eau. D'où vient cette expression ?
La réponse dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin et vous l'attendez tous les matins, mais ce matin en particulier, bien sûr. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus entrent en lice à l'Euro, ils affrontent l'Allemagne à Munich ce soir, un adversaire de taille pour commencer. Il faut dire que l'équipe de France est tombée dans ce qu'on appelle le groupe de la mort, hein, le plus relevé de la compétition avec le Portugal et la Hongrie. Pour vous, il n'y a rien de mieux pour commencer l'Euro qu'un match contre l'Allemagne.
Bah, de toute façon, on ne va pas faire les caliméros en chouinant que c'est trop injuste. Ça fait trois semaines qu'on est sur les dents, qu'on attend que ça démarre. Alors autant zapper les amuse-bouches et croquer le plat de résistance tout de suite. On est champion du monde ou pas ? Puisqu'on ne cesse de répéter que la France fait peur à toute l'Europe du foot, on ne va pas transformer la phrase en « la France a peur » à quelques heures de l'entrée en lice. Avoir un adversaire de cette qualité et avec tout le passif entre les deux équipes au fil des décennies, c'est la meilleure chose possible. Ça évite les atermoiements, il faut être compétitif directement. Et puis ça permet de siffler la fin de la récré. Olivier, Kylian, on a bien rigolé. Vous vous êtes cherché des poux dans la tête ces derniers jours. Et c'est pas bien grave. Enfin, en tout cas, on l'espère. Finalement, chacun a dit ce qu'il avait à dire, de Giroud à Mbappé, et ça permet de crever les éventuels abcès avant que ça commence. Maintenant, en face, c'est l'Allemagne. Donc on se remobilise, et c'est bien le moment de prouver que finalement, le groupe vit bien, comme on dit. Voilà. Les joueurs ont montré qu'ils avaient de l'ego, de la fierté, du répondant. On a bien compris, mais l'Euro, c'est pas un concours d'éloquence ou un jeu de c'est celui qui dit qui est. C'est sur le terrain que la Mannschaft vous attend, c'est le moment de troquer les petites phrases contre les petits ponts.
Et il ne faudrait pas que cette équipe d'Allemagne, on va éviter de la prendre à la légère.
Bah, c'est une sélection en reconstruction, certes, mais d'abord elle va jouer à Munich devant son public. Et puis je crois que l'histoire nous a montré qu'il ne fallait pas s'amuser à sous-estimer le football allemand, ça vous retombe dessus en deux coups de crampon. Surtout que ces Allemands ont l'art de vous faire rentrer dans le bain sans vous mouiller la nuque. Le défenseur central, Antonio Rüdiger, a décidé de pimenter encore un peu cette confrontation avec ses déclarations, les deux pieds décollés du sol. Mmh. Sur le papier, les Bleus sont plus forts, dit-il, mais ça n'est que du papier. Nous, il ne faudra pas qu'on hésite à jouer sale. Ah, ok, il le prend comme ça, et c'est de l'auto-persuasion ou une menace. S'il avait envie de faire ressurgir une fois de plus les images de Schumacher qui met Baptiste en KO en 1982.
Vous avez tenu deux minutes presque.
Voilà, c'est pas mal. Oui, mais je suis désolée, c'est pas de ma faute, c'est lui. On s'en débarrassera jamais de ce traumatisme de Séville. Bon allez, ça fait encore une raison de plus pour que les Bleus aient envie de se jeter dans la bataille à corps perdu. Comme son nom l'indique, l'Allianz Arena de Munich est bien une arène.
Vous aviez réussi avec, comment vous disiez-vous, tout le passif entre les deux équipes au fil des décennies.
Ouais, c'était discret, mais là, et hop, c'est remonté.
Cela dit, mon invité, Gernot Rohr, à 7h40, je lui demandais ce que ça veut dire « jouer sale ». Hein, on va voir, ouais, lui qui est sélectionneur aussi. J'aimerais bien savoir avec des mots concrètement, les deux pieds décollés du sol, tout ça. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Le match à suivre, à vivre en direct, en intégralité sur Europe 1 ce soir. À 7h23, Stéphane Bern est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Quand ça doit se faire et que finalement ça ne se fait pas, que ce soit en matière amoureuse, dans le business ou dans n'importe quel autre domaine, on dit ça tombe à l'eau.
Oui, ça tombe à l'eau. Alors j'imagine que si ça tombe à l'eau, c'est que c'est perdu, difficile de rattraper ce qui est littéralement tomber à l'eau. Mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, j'espère.
Oui, fort heureusement, sinon je ne serais pas là ce matin. Partons pour le 12e siècle. À cette époque, on dit tomber dans le lac. On comprend facilement comment la formule s'est rapidement transformée en tomber à l'eau. Mais là où il y a une petite astuce, c'est que le lac n'a rien à voir avec la grande étendue d'eau. Ce lac vient du latin laceus, qui évoque le lacet, bref, le nœud coulant. Comprenez le piège. Tomber dans le lac, c'est donc tomber dans le piège. D'ailleurs, petite info totalement inutile et sans intérêt, à l'époque, on ne prononçait pas lac, mais la. Bon, je vous avais prévenu que c'était sans intérêt.
Non, mais si, quoi, moi, qu'il j'aime
en... bien. Quoi qu'il en soit, que ça tombe à l'eau ou que on tombe dans un piège, dans tous les cas, c'est l'embarras et la misère. C'est la situation dans laquelle on se retrouve quand tout périclite. En anglais, aujourd'hui, on dit toujours « fall in the water ». Je ne traduis pas. Hein. En espagnol, « caer en saco roto ». Comprenez, ça tombe dans un sac troué. Effectivement, c'est pas l'eau. Mais on dit aussi « todo mi gozo en un pozo ». Je mets toute ma joie dans un puits. C'est pas plus malin. Chez nos amis hollandais, on dit qu'une affaire tombe dans les douves. Et au Portugal, c'est dar em água de barril, ça tombe dans l'eau de la cuvette. Et voilà qui est également bien dommage. En tout cas, quand ça tombe à l'eau, souvenez-vous de ce que disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
J'aime bien.
Moi aussi.
Elles sont toutes bien, celles de Winston Churchill. Alors, il n'y a pas le feu au lac, on dit il n'y a pas le feu au lac. C'est oui, ça oui. On vous retrouve à 16h pour Historiquement Votre, Stéphane.
Oui, alors, cher Mathieu, on réunit Lord Arthur Kinnaird, l'un des tout premiers footballeurs qui a donné au sport ses lettres de noblesse. Un joueur encore meilleur, son nom en atteste George Best. Et celui qui signe son retour après 5 ans d'absence en équipe de France, c'est Karim Benzema. Oui, vous l'avez compris, à l'occasion du premier match des Bleus dans l'Euro, on réunit des as de la passe.
Alors, j'arrête simplement sur un mot. La soirée spéciale ne commence pas à 20h, mais à 16h, du coup, dans Historiquement Vôtre, vous l'aurez compris.
C'était inattendu.
Avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. 7h26 sur Europe 1, à suivre la météo et les infos, tout de suite. Il est 7h28 sur Europe 1 et nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Avec de grosses chaleurs aujourd'hui, un peu comme hier et même plus qu'hier. 26 au Havre, 27 à Valenciennes, 30 à Marseille, 31 à La Rochelle, Dijon et Paris. Je le rappelle à ceux qui nous écoutent pas, qui nous écoutent un peu plus tardivement. 32 à Nevers, 33 à Limoges, 34 à Bordeaux, Toulouse et Lyon, 35 à Cahors, 36 à Avignon et 37 à Lodève et à Alès. Le point culminant de la chaleur, c'est aujourd'hui et demain. Et à partir de demain, puisque nous avons là l'air chaud qui vient du Sahara, et à partir de demain soir, demain après-midi, l'air frais viendra de l'Atlantique et quand les deux se rencontrent, eh bien, ça tombe de l'eau. Voilà, il y aura des orages partout, des orages qui arriveront par les côtes atlantiques et qui vont traverser tout le pays durant la journée de vendredi, les journées de vendredi, samedi, dimanche et même peut-être lundi. Vous voyez que le temps va changer totalement.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Mais on respirera peut-être un petit peu aussi, ça fera du bien. Merci, Laurent. Bonjour, Sophie Hachène.
Et bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Les autorités chinoises, au lieu de décider d'arrêter le réacteur pour stopper la contamination, semblent avoir décidé, chaque fois qu'un nouveau seuil est franchi, d'augmenter la limite autorisée. C'est contraire à ce qu'on peut attendre d'une autorité en matière de sûreté nucléaire.
Un silence radio à Pékin après l'incident à la centrale nucléaire de Taishan, fabriquée avec EDF et Framatome. Nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal, les attentes respectives de Joe Biden et Vladimir Poutine à la veille de leur rencontre. Et puis magouilleur pour les uns, généreux et innocent pour les autres. La personnalité de Willy Bardon scrutée au premier jour de son procès en appel.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le franco-allemand historique des Girondins de Bordeaux, notamment Gernot Rohr. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Tous les sondages le disent, dimanche prochain on verra dans les urnes que la France a nettement glissé à droite.
Et puis enfin avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinée. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit la tête de liste du Rassemblement National dans la région Sud, Thierry Mariani. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et beaucoup d'interrogations en Chine après la possible fuite de gaz à la centrale nucléaire de Taishan dans le sud du pays. Une centrale de type EPR de dernière génération construite avec l'aide d'EDF. La compagnie française a confirmé hier avoir été informée d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares et demande donc une réunion avec son partenaire chinois. Mais la Chine garde le silence à ce sujet. Les explications à Pékin de notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Aucune réaction officielle côté chinois ce matin. Pourtant sur place, une fuite a bien été confirmée par la partie française, EDF et Framatome, qui exploitent en partenariat avec la Chine cette centrale. Mais les taux de radiation dans l'atmosphère restent dans les normes chinoises, des normes, il est vrai, trois fois supérieures aux normes françaises. Les régulateurs chinois auraient même relevé le seuil acceptable de radiation afin d'éviter de devoir arrêter ce réacteur. Il faut dire que Taishan est une pièce maîtresse. Ces deux réacteurs EPR sont les plus puissants du monde et alimentent en électricité une zone équivalente à la Grande-Bretagne, mais deux fois plus peuplée. Le site s'étend sur plus de 400 hectares. Les travaux ont duré 11 ans et mobilisé jusqu'à 15 000 ouvriers. C'est donc allé beaucoup plus vite que sur les chantiers français et finlandais de l'EPR, puisque ce premier réacteur a ouvert fin 2018 et le second a été connecté au réseau la semaine dernière. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
La Chine qui répond aux dirigeants de l'OTAN ce matin au lendemain du sommet à Bruxelles. Pékin accuse l'Alliance d'exagérer la théorie de la menace chinoise et de faire preuve d'une mentalité de guerre froide. Hier, l'OTAN affirmait devoir s'allier pour faire face aux défis posés par la Chine pour sa sécurité.
Après l'OTAN, Joe Biden va achever son marathon européen demain à Genève avec une rencontre avec l'un de ses grands adversaires géopolitiques, Vladimir Poutine.
Et le président américain a annoncé qu'il n'hésiterait pas à mettre en garde son homologue russe si celui-ci venait à franchir certaines limites à l'avenir. Écoutez.
Je vais dire clairement au président Poutine qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons coopérer s'il fait ce choix. S'il choisit de ne pas coopérer et agit comme il l'a fait dans le passé, par exemple en matière de cybersécurité ou d'autres activités, alors nous répondrons. Sur les sujets de désaccord, nous serons clairs sur nos lignes rouges.
He's bright, he's tough.
Je l'ai déjà rencontré, il est brillant, il est dur. Je trouve que c'est, comme on dit en sport, un adversaire digne de ce nom.
Et de son côté, Vladimir Poutine attend plus de respect de la part de Joe Biden.
Nous avons une relation bilatérale qui s'est détériorée pour atteindre ce qui est le niveau le plus bas de ces dernières années. La valeur la plus importante dans les affaires internationales est la prévisibilité et la stabilité. Et je crois que c'est quelque chose que nous n'avons pas vu de la part de nos partenaires américains ces dernières années.
Coup d'envoi ce matin de la vaccination pour tous les adolescents de plus de 12 ans, sur la base du volontariat uniquement et avec l'accord signé des deux parents.
Et un peu de souplesse ce soir à l'occasion du match des Bleus contre l'Allemagne. Le couvre-feu reste fixé à 23h, mais il y aura une tolérance si vous rentrez chez vous après avoir regardé le match chez un ami ou dans un bar. Selon les informations du service politique d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a demandé aux forces de l'ordre de se montrer indulgentes. Plus de détails dans le journal de 8h.
La suite du procès en appel de Willy Bardon, accusé de viol et du meurtre d'Élodie Kulik à Douai en 2002.
Il l'avait annoncé, Willy Bardon continue de plaider non coupable. Hier, la première journée a été marquée par le début de l'examen de sa personnalité et par le face-à-face, à distance, entre l'accusé et Jackie Kulik, le père de la victime, qui espère une lourde condamnation. Lionel Gougelot.
Dans son box des accusés, Willy Bardon écoute attentivement les dépositions des premiers témoins, mais semble vouloir éviter le regard de Jackie Kulik, qui le fixe la plupart du temps, le papa d'Élodie, qui reste de marbre quand Bardon réaffirme qu'il va plaider non coupable.
Oh bah, il peut plaider non coupable, il a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il plaidera toujours non coupable. C'est un magouilleur, et bon, il essaye de cacher, c'est vicieux, c'est Willy Bardon.
De l'autre côté de la barre, Willy Bardon a vu, forcément, la photographie du large portrait d'Élodie Kulik que Jackie a posé sur le banc des parties civiles. Une charge émotionnelle qui rend la tâche des défenseurs Marc Dailly et Gabriel Duménil d'autant plus délicate.
Évidemment, c'est toujours extrêmement difficile dans ce cas-là, mais c'est, il ne faut pas l'oublier, le procès de Willy Bardon. C'est lui qui est accusé, c'est lui qui est innocent. C'est lui qui doit se battre pour rétablir la vérité.
Parce que nous avons à cœur de montrer un autre visage de M. Bardon, de quelqu'un de généreux, de quelqu'un de gentil. Il n'y a rien qui pourrait expliquer un tel geste.
Des avocats dont l'objectif sera de démontrer que la voix de Willy Bardon ne peut pas être distinguée dans l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers lors de son agression, même si plusieurs des proches de l'accusé l'ont formellement reconnu. Doué, Lionel Gougelot, Europe 1.
Trois semaines après l'ouverture du procès Big Malion, le principal intéressé Nicolas Sarkozy est attendu à la barre aujourd'hui. L'ancien président devra s'expliquer sur les dépenses excessives de sa campagne en 2012. Et puis attention, dans les Bouches-du-Rhône, alerte de niveau 2 pour la pollution à l'ozone. Il faudra lever le pied sur la route aujourd'hui. La vitesse maximale est abaissée de 20 km/h.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un nouveau journal tout à l'heure à 8h avec les supporters français à Munich. C'est jour de match France-Allemagne à 21h. La mansuétude demandée par Gérald Darmanin aux forces de l'ordre aussi pour le retour ce soir après le couvre-feu pour certains. On va parler du match en lui-même dans un tout petit instant, de sa symbolique aussi. Gernot Rohr, né allemand, adopté par la France où il a fait une bonne partie de sa carrière. C'est le match des meilleurs ennemis, France-Allemagne, au programme du tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, la touche âme, Bertrand Chamerois, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Il est des manifestations qui marquent l'histoire. La dernière en date s'est déroulée dans le Morbihan.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1. C'est l'heure de la touche âme. Le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Ce matin, parlons histoire et des manifestations qui ont changé son cours.
1930, la marche du sel de Gandhi. 1963, la marche pour les droits civiques aux États-Unis avec Martin Luther King. 1978, les manifestations en Iran contre le Shah. 1989, Tiananmen. Ce ne sont que quelques exemples de mouvements qui ont révolutionné le monde, mais ils ne sont rien à côté d'eux. La marche d'Erdeven en 2021. C'était ce week-end, oui. Une nouvelle page de l'histoire s'est écrite dans le Morbihan. Il était 10h samedi, quand une trentaine de naturistes a manifesté devant la mairie. Objet de leur courroux, le déplacement d'un panneau délimitant la zone naturiste sur la plage de Kerminihi. Il n'y a pas de petit combat, Mathieu. Hein ? Alors, vous en avez peut-être un peu moins entendu parler que les autres mouvements que je citais il y a un instant, mais c'est normal. C'est tout simplement parce que, comme le rapporte Ouest France, les manifestants naturistes étaient habillés. Résultat, les gendarmes en ont déduit que la manif avait été annulée. Comme quoi, ils auraient gagné à être cul-nus. Je vous la facture pas celle-ci. Ah non, mais quand l'actualité nous fait des cadeaux comme ça, Mathieu, ce serait dommage de passer à côté. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas, parce que je me pose beaucoup de questions, moi, le matin. Les autorités ont pensé que la manif était annulée parce qu'ils n'ont vu personne nu. Mais ça veut surtout dire que c'était une manif silencieuse, parce que même habillé, des naturistes qui se rassemblent pour protester, ça s'entend normalement. Il n'y en a pas un qui avait pensé à prendre un mégaphone ou une pancarte. Bon, ceci dit, des gens qui crient « Naturistes, en colère !» habillés, ça n'a pas de sens. J'imagine la scène. Il devait être sympa, le rassemblement, hein. Personne qui marche sans rien dire, sans bobrole, rien. Un succès. Et ce n'est pas tout. Hein. Le mouvement de colère n'était pas justifié puisque si le panneau a été enlevé, ce n'est que temporairement. Il n'est en aucun cas question de réduire l'espace des naturistes sur la plage. Donc, bilan des courses, la manifestation est passée inaperçue et en plus, elle n'avait pas lieu d'être. Oui, des champions comme on les aime. Ne serait-ce que pour ce genre d'histoire, je le dis haut et fort. Merci, la presse quotidienne régionale.
Alors, je ne m'attendais pas à cette chute, mais je m'associe, oui. Merci à la presse quotidienne
régionale. C'est pas ironique du tout, je le pense sincèrement.
Évidemment, évidemment. La touche âme tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1, la manif en silence, j'aime beaucoup. Il y a plus de bruit dans les couloirs du métro. Hein,
que
dans
cette...
Parfois, on y croise des gens moins habillés aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Merci Bertrand, on vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel pour Culture Média, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Vous avez attendu 4 jours. Depuis vendredi, l'Euro de football a démarré, mais c'est aujourd'hui seulement, c'est ce soir que les Bleus entament leur compétition. Et quelle entame ? France-Allemagne, un choc, un duel au sommet pour démarrer. Et ce matin, nous en parlons avec le plus français des footballeurs allemands ou le plus allemand des entraîneurs français, vous choisirez. Il est aujourd'hui sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, est mon invité en direct ce matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Gernot Rohr.
Bonjour Mathieu.
France-Allemagne, pour démarrer. Vous êtes d'accord avec ces qualificatifs choc, duel au sommet ? L'Euro démarre par une finale ?
Oui, 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 on est d'accord avec ça, parce que c'est quand même un match très, très attendu, pas seulement en Allemagne et en France, mais aussi ailleurs, même au Nigeria, parce que là, il y a deux équipes qui se rencontrent, qui sont des grandes équipes, qui sont en forme. Et en plus, il y a des joueurs dans chaque équipe qui jouent en club sous le même maillot. Ça aussi, c'est quand même intéressant. Et ça pourrait être une finale, c'est vrai, mais là, c'est le premier match d'une compétition. C'est très intéressant aussi.
D'autant que le perdant de ce match est condamné finalement presque à vaincre le tenant du titre, le Portugal. On parle de groupe de la mort, Portugal, Hongrie, Allemagne, France.
Oui, oui, mais vous savez que le troisième peut aussi se qualifier. Les quatre meilleurs troisièmes de ces groupes peuvent se qualifier aussi pour le prochain tour. Donc, je pense que les trois équipes ont de bonnes chances de se qualifier. Il faut dédramatiser un peu ce premier match. Je pense qu'il y aura un beau match de football déjà, parce que déjà dans ce magnifique stade de l'Allianz Arena, où quatre joueurs du Bayern de chaque côté vont s'affronter en tant qu'adversaires pour une fois. Et les conditions sont réunies, les deux équipes sont en forme, elles ont gagné leur dernier match de préparation. Voilà, donc l'Allemagne a même remporté son match contre la Lettonie avec un score de 7-1, avec 7 buteurs différents.
Alors ça promet une très belle affiche. Yogi
Löw, c'est là, le sélectionneur, son dernière gamme de compétition.
On va parler de Joachim Löw, Gernot Rohr, mais simplement, puisque vous parliez de dédramatiser l'enjeu d'un France-Allemagne, ça paraît compliqué vu d'ici. Ce soir, on dit les Bleus archi-favoris. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'on a peur?
On n'a pas peur du côté allemand, mais on dit que les Bleus sont favoris parce qu'ils sont champions du monde, simplement. Il faut assumer le statut. Et c'est un rôle plutôt agréable pour l'Allemagne de ne pas être favori. Souvent, dans le passé, c'était l'inverse. Là, la France est numéro 2 ou 3 mondial, donc l'Allemagne est loin dans le FIFA ranking maintenant.
Le classement.
Et logiquement, la France sera favorite de ce match.
Oui, la France favorite. On va voir ce que ça donne. L'Allemagne qui débute la compétition. Simon Rubin nous le disait un peu plus tôt, avec peu de confiance, de la pression, peu de certitude. Je retiens aussi l'édito sport de Virginie Fulpin, il y a une vingtaine de minutes, qui reprenait, Gernot Rohr, les déclarations d'Antonio Rüdiger, défenseur central allemand. Sur le papier, les Bleus sont plus forts, mais ce n'est que du papier. Nous, il ne faudra pas qu'on hésite à jouer salement pour envoyer un message. Alors ça, c'est une question au coach Gernot, ça veut dire quoi jouer salement?
Oui, ça c'est une traduction peut-être un peu libre là. Je pense qu'il faut se mouiller, il faut mouiller le maillot, parfois salir le maillot. Vous voyez, quand on se jette, là il fait beau, il n'y a pas de boue, mais ça arrive parfois dans des matchs. C'est une expression un peu imaginée par Antonio Rüdiger. On sait que c'est un défenseur qui ne fait pas de cadeaux à ses adversaires. Ils vont certainement jouer à 3 dans l'axe, hein, compte tenu de la présence de Mbappé et de Benzema côté français. Je pense qu'il y aura 3 défenseurs centraux qui vont être chargés de surveiller les attaquants français.
Alors, je vous posais évidemment la question. Alors, on y fait référence sans en trop en parler. On ne va pas revenir des heures et des heures sur le France-Allemagne de 1982 parce qu'il y a eu d'autres matchs depuis et puis parce que beaucoup des joueurs de l'équipe de France n'étaient même pas nés. Hein, faut bien le reconnaître. Mais vous qui êtes français aujourd'hui, vous l'êtes depuis 82 et on le sait peu, mais vous avez failli jouer ce match, Gernot Rohr, et le jouer en bleu.
Oui, parce que je m'étais fait naturaliser français, en effet, et Michel Hidalgo, l'entraîneur de l'époque, qui était près de Bordeaux, il habitait à Blaye, et bien il était venu me voir pour me sélectionner en équipe de France. Mais comme j'avais déjà joué avec l'équipe d'Allemagne olympique, à l'époque on ne pouvait pas changer, aujourd'hui ça aurait été possible. Donc du coup, je ne pouvais pas faire ce match-là.
Ça aurait été amusant rétrospectivement, on se dit, de voir Gernot Rohr dans l'équipe de France de 1982. Alors le sélectionneur que vous êtes, je voudrais qu'on en termine par là, le franco-allemand que vous êtes aussi, Gernot Rohr, il y a ce match dans le match entre Didier Deschamps et Joachim Löw. Il faut parler des deux sélectionneurs et du rapport, du parcours en parallèle qu'ils ont.
Oui, ça c'est les deux sélectionneurs quand même qui ont... Un point commun, c'est qu'ils sont devenus champions du monde, ce qui est déjà exceptionnel. Et puis Yogi Löw, on le sait, a annoncé qu'après ce championnat d'Europe, il arrêterait sa carrière de sélectionneur. Et donc, il a vraiment à cœur de finir bien, et pourquoi pas avec un titre de champion d'Europe. Tous les joueurs voudraient lui faire ce cadeau. Depuis quelques années, on va dire 3-4 ans, l'Allemagne n'a pas eu beaucoup de bons résultats. Il voulait rajeunir, peut-être trop vite. Là, il y a le retour de Mats Hummels et aussi de Thomas Müller. Un petit peu comme côté français où on a rappelé Benzema. Et avec ces deux joueurs d'expérience, eh bien, je pense que l'Allemagne sera plus forte. Et le sélectionneur aura une bonne sortie pour finir son travail de sélectionneur.
Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France rappellent un volet un peu sombre de leur histoire, bien sûr. Les deux hommes sont liés par leur carrière, leur palmarès, bien sûr, mais aussi, et ça on l'a peut-être oublié, par ce France-Allemagne du 13 novembre 2015, le soir des attentats à Paris, que les deux hommes ont passé ensemble, évidemment. Je ne reviens pas sur la douloureuse histoire de ce 13 novembre. Un dernier mot, Gernot Rohr, pour terminer l'interview. Évidemment, vous l'attendez. Un pronostic pour le match de ce soir, France-Allemagne?
Oui, mon pronostic sera 2-2. Je pense qu'il y aura des buts. parce que l'Allemagne va attaquer, c'est dans son esprit. La France est obligée aussi, en tant que tenant du titre de champion du monde, d'avoir un jeu offensif. Je pense qu'il y aura un match nul et moi, dans ce cas-là, je serai content parce que je ne serai pas triste pour l'un ou pour l'autre.
Et ça restera assez ouvert aussi pour la suite de la compétition. S'il y avait 2-2 entre la France et l'Allemagne, les atouts français, on les connaît, Benzema, Griezmann, Mbappé, n'oublions pas Manuel Neuer, le gardien allemand en face. C'est très très compliqué de passer à travers Manuel Neuer. Merci Gernot Rohr d'être venu nous présenter ce match, si j'ose dire, le plus français des Allemands, le plus allemand des Français. Gernot Rohr était mon invité en direct ce matin, aujourd'hui sélectionneur du Nigeria. Il est 7h49.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, l'édito politique, Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Il faut toujours se méfier des sondages.
Absolument, oui.
Mais étude après étude, on voit se dessiner une véritable évolution de l'opinion publique française.
Oui, un glissement vers la droite. Le pays n'a probablement jamais été aussi à droite depuis 50 ans, si on accepte bien sûr les voix qui s'étaient portées sur Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Et tout naturellement, cette droitisation du pays se fait d'abord au détriment de la gauche. L'Institut de sondage ELAB a par exemple mesuré qu'entre les dernières élections régionales de 2015 et aujourd'hui, la gauche pourrait avoir perdu 8 points pour se retrouver à un tout petit 26% des intentions de vote.
Quelle que soit la configuration, je veux dire qu'il y ait une, deux ou parfois trois listes.
Absolument. Et ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour la gauche dans les Hauts-de-France. Seule région où la gauche se présente unie, les sondages la placent à 20% seulement. C'est un bâtiment historique et il s'est effondré.
Et est-ce que ce mouvement de l'opinion profite à La République En Marche ?
Alors oui, ça nourrit ce vote, même si c'est difficile de comparer 2021 avec 2015, puisque à cette époque, le parti d'Emmanuel Macron n'existait pas. Mais attention, la droitisation touche aussi En Marche. Et l'ELAB souligne par exemple qu'en Normandie, 20% des électeurs de Macron en 2017 glisseront vers la droite et voteront pour Hervé Morin, le président sortant de centre-droit. Une autre étude passionnante, menée au niveau national par un excellent think tank, la Fondapol, montre un phénomène saisissant. Lorsqu'on demande aux gens de se situer eux-mêmes sur une échelle de la gauche vers la droite, les Français ne sont que 18% à se déclarer à gauche. Ils sont deux fois plus nombreux à se dire de droite, presque 40%.
Et ceux qui se déclarent au centre ?
Bon, ils font 16%, mais c'est presque autant que les Français de gauche, et c'est un phénomène historique qui d'ailleurs s'accélère. La même Fondapol a mesuré que la gauche est passée de 22 à 18% en un an et demi seulement. La droite, qui n'avait que 12 points d'avance à l'époque, en a aujourd'hui 20. C'est un gouffre. Et circonstance aggravante, plus les électeurs sont jeunes, plus il glisse vite vers la droite.
Alors j'imagine que le Rassemblement National en profite aussi.
Largement, oui. Tenez un exemple en Normandie, toujours. 25% des électeurs de François Fillon en 2017 annoncent qu'ils voteront désormais au régional pour Nicolas Bay, la tête de liste Rassemblement National. Et ce sera plus net encore en PACA. 40% voteront Mariani. Bon, il est vrai que dans cette région, En Marche et les Républicains ont fait ce qu'il fallait pour dégoûter leurs électeurs. Bon, la pente vers la droite n'en sera que plus forte.
Votre édito politique tous les matins, c'est à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et justement, oui, tous les matins avant 8h, Nicolas Conteloup conseille à sa manière à l'invité politique de la matinale. Et à 8h15, c'est précisément Thierry Mariani, la tête de liste Rassemblement National en région Sud, qui répondra aux questions de Sonia. Et c'est Marine Le Pen qui est venue le soutenir juste avant son interview. Bonjour Madame
oui,
Le Pen.
Bonjour Rassemblement, oui. Bonjour Monsieur Bétou. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui me tarde de lire cette étude passionnante de la Fondapol où vous indiquez que les jeunes, plus ils sont jeunes, plus ils glissent à droite. Bonjour, pardon, joli métis. Il est de retour, mon vagabond, mon saltimbanque, qui est encore parti en vacances sans moi, le coquinou. Bref, parlons de mon Titi, de mon Thierry Mariani, qui est connu en région PACA, mais aussi, il faut le préciser, à l'international, oui, en Russie, en Syrie. C'est le seul à aller en vacances chez son ami Bachar el-Assad à Damas. Damas, ton univers impitoyable. Oui, oh, écoute, ça va, mais j'ai tout, il fait chaud, j'ai pas la clim, j'ai trouvé que ça. Voilà, bon.
C'est bien quand même.
Bon, c'est gentil, merci de votre bon point. Et, en tout cas, comme quoi Thierry Mariani le prouve, au Rassemblement National, on aime les Arabes. quand ils restent chez eux. Car Bachar est arabe, pratiquant, vous savez, un islam chiite et alaouite. Alaouite, gentil, alaouite.
Oh mon Dieu.
Oui, mais écoutez, c'est l'été, je suis d'humeur oui, lyrique.
Installez-lui la clim. Merci. Oui, c'est merci. Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale tous les jours juste avant 8h. Et Sania Mabrouk ce matin reçoit Thierry Mariani, tête de liste du Rassemblement National pour les régionales dans la région sud. Merci Nicolas. À tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Eh bien, cette semaine, nous allons frôler la canicule, mais on ne va pas pouvoir y entrer, tant mieux. 3 jours de suite à des températures à ne pas dépasser, c'est le seuil de canicule, et ce seuil est fixé différemment par région. Il sera peut-être passé, certainement même sur le pourtour méditerranéen, essentiellement dans le golfe du Lion, hein, où il a fait vraiment très très chaud. Mais dès demain, les températures vont commencer à baisser, et donc les 3 jours consécutifs vont sauter par la fenêtre, si je puis dire. Et nous aurons donc demain après-midi, demain soir et puis surtout jeudi, une perte au thermomètre de 2-3 degrés et même en fin de semaine, probablement une dizaine de degrés pour certains d'entre nous. Donc voyez que le rafraîchissement n'est pas très loin. Aujourd'hui, il va faire très très chaud, donc 26 à Wavre, 27 du côté de Lille, 30 à Marseille, 30 à Nancy, 31 à La Rochelle, Dijon et Paris, 32 à Nevers et Poitiers, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Lyon, 33-34. Allez, j'en sors quelques-unes encore, 36 degrés à Orange, 37 du côté de Nîmes, 37 à Nîmes, c'est là qu'il fera le plus chaud. Bref, allez, bon courage, chers amis, parce que c'est pas simple à supporter tout ça.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, on écoute Le Monde changer.